MEDEF, la rencontre des entrepreneurs de France. Un événement organisé par le MEDEF sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bonjour, bienvenue en direct de la REF, organisée par le MEDEF. Deuxième journée, on est ravis de vous faire vivre cet événement en direct de Roland-Garros. Première fois d'ailleurs que c'est à Roland-Garros. Avant, c'était à Lippourde-de-Longchamp. Bonjour Sylvain, Lévy, Valency. Rebonjour.
Rebonjour Bérénice.
Quelle effervescence ce matin sur notre plateau.
Écoutez, on n'a que les têtes d'affiche sur le plateau. On a la ministre du Logement et là, il nous fallait absolument la présidente du Conseil National de l'Habitat.
Exactement, qui est aussi députée du Finistère. Bonjour Annick Lemaire.
Bonjour Bérénice.
Bonjour Sylvain.
Ravi de vous recevoir. On est très contents. On continue avec les personnalités importantes du secteur. Un petit mot peut-être sur cet événement. Alors là, vous venez d'arriver. Comment vous voyez l'ambiance? Bon, c'est vrai que on est en pleine instabilité politique, économique. Comment vous voyez cette rentrée?
C'est une rentrée qui sera encore dans l'incertitude. Donc ouais. Les entreprises ont besoin d'avoir de la continuité, d'avoir de la stabilité. Et on sent que ce moment politique n'est pas favorable, entre guillemets, à les rassurer. Donc du coup, c'est un moment où on sent de la tension. Et concernant notamment les sujets liés au logement, qui étaient déjà des sujets qui étaient tenus et qui étaient en tension, là, on sent que il y a encore de l'incertitude sur ces sujets, notamment pour les chefs d'entreprise, pour pouvoir loger leurs salariés. Donc, effectivement, c'est un moment important, moi, en tant que présidente du Conseil national de l'Habitat et membre de la Commission des affaires économiques, d'être présente auprès d'eux.
Alors, bien sûr, politiquement, on ne peut pas ne pas vous poser la question, c'est clair. C'est celui du vote de confiance qu'a demandé le Premier ministre le 8 septembre. Alors, je ne vais pas vous demander pour si vous allez voter ou pas la motion de censure, mais si vous le souhaitez, vous avez la parole, bien sûr. Dans la perception des entrepreneurs comme des Français, on se pose vraiment des questions. C'est-à-dire qu'on se dit, mais à quoi on joue dans une certaine mesure? Cette instabilité, elle apparaît comme étant presque coupable à l'égard des efforts que font les Français, des entreprises, pour pérenniser. Ouais. Et on se dit quoi? On se dit, mais ces mesures qui sortent dont on ne sait où, des assertions parfois non concertées, peut-être du Premier ministre ou d'ailleurs, troublent finalement la stabilité. Et on l'a vu, quand François Bayrou a annoncé justement qu'il appelait la confiance du Parlement le 8 septembre, on a vu le lendemain les chiffres de la Bourse de Paris, par exemple, foncer dans le rouge. On a vu dans les jours qui ont suivi un attentisme, notamment des banques, et tout de suite une crispation d'une dynamique qui était un peu retrouvée, on peut le dire, ça.
Hein. Oui, c'est vrai que ça a donné un coup. La Bourse de Paris, c'est normal, elle a tout de suite réagi. J'imagine qu'en tant que parlementaire, en tant que présidente du Conseil national de l'Habitat, pareil, vous avez dû...
Mais évidemment, ça, de telles annonces, en fait, amènent une crispation, mais c'est une prise de conscience et de réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi un coup de projecteur, ce qui est la réalité. Il y a une dette qui est présente. Peut-être qu'on ne la vit pas au quotidien, parce que quand on est chef d'entreprise ou autre, dans un quotidien territorial... l'objectif, c'est de couvrir les marchés, de répondre à la demande des particuliers, des entreprises et des collectivités. Et que là, la réalité du régime plutôt macro s'impose à nous. Il s'impose dans un contexte aussi géopolitique très complexe actuellement, avec quand même des conflits, il ne faut pas l'oublier. Donc au moins de ramener en fait à la réalité, moi je trouve ça important de se dire le constat il est là, on le partage. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce qu'on le fait ensemble ou est-ce qu'on ne le fait pas ensemble?
Et François Bayrou l'a très bien fait. Je trouve qu'il a... Parce que c'est vrai que c'est compliqué à s'imaginer. En tant que Français, vous l'avez dit, quand on est dans son quotidien, on travaille, on veut terminer boucler ses fins de mois, cette dette, elle est quasiment pas palpable. François Bayrou l'a très bien expliqué. Et il a expliqué aussi que c'était de la responsabilité de chacun et de chacun des politiques. Est-ce que vous vous sentez responsable, vous aussi?
On est tous responsables. C'est-à-dire que l'on soit citoyen, mais aussi d'autant plus quand on est élu et qu'on est politique. Ouais. On se doit d'être responsable vis-à-vis en fait de cette dette que l'on ne veut pas laisser au prochain, au suivant, mettre sous le tapis pour se dire elle n'existe pas. Mais c'est vrai qu'elle est peu palpable dans notre quotidien, donc c'est pas évident.
Annaïque Lemaire, vous qui êtes dans un territoire aussi avec des personnes qui ont des revenus plutôt médians voire bas, comprenez que c'est pas évident de dire à la fois aux entrepreneurs, aux salariés, vous allez avoir 2 jours fériés en moins, vous allez avoir... dans l'ordre du symbole, je reviens pas sur la nécessité, bien évidemment, de l'économie budgétaire, on est d'accord là-dessus. Mais dans le vocable, vous savez ce que disent les personnes, c'est que pourquoi on nous donnerait à nous des leçons de gestion d'un État chroniquement déficitaire, alors que nous on est à l'équilibre, et qu'on est prospère. Deux, pourquoi on paierait encore une fois et d'être toujours cette variable d'ajustement budgétaire sur le, d'une dette dont on n'a pas le sentiment, et je dis bien que c'est une perception, d'être responsable.
Oui,
on devrait le comprendre.
Et ça a été, en fait, on a, le débat pour moi a été focalisé effectivement sur des effets du quotidien, alors que, en fait, en soi, c'est pas, entre guillemets, uniquement la notion des jours fériés qui va changer la donne. Derrière, on a un peu ignoré. Oui, effectivement, c'était très symbolique.
Oui, le symbole.
Nous, pour notre part, pour notre groupe politique, on n'était pas forcément favorable à cette notion de jours fériés. Il y avait peut-être une discussion à avoir d'aménagement, de se dire, on fait un effort collectif. C'est ce jeu collectif qui était important. De mettre en place.
Ou de communication, de parler. C'est tombé comme ça du jour au lendemain. Et vous avez vu.
Bon, maintenant, ça a amené aussi une attention.
Voilà, oui.
Ça a amené une attention, mais aussi une crispation. Je suis d'accord avec vous, parce que c'était un sujet assez clivant, quand même, que de se dire, on retire des jours fériés.
Il y a eu les jours fériés, puis il y a eu le choix des jours fériés. Pâques, c'est quand même la fête la plus importante chrétienne, avec Noël, mais Pâques, quand on est vraiment chrétien pratiquant, c'est la fête.
C'est symbole.
C'est symbolique. C'est vrai que le choix de Pâques était peut-être pas aussi judicieux, parce qu'il y a beaucoup. Les chrétiens sont montés au créneau aussi pour ça.
Tout à fait. Et c'est pas le moment de mettre en opposition,
c'est
justement.
Pas le moment, absolument.
Mais pour autant, je pense qu'il était important de penser qu'il y aurait quand même, du coup, un débat parlementaire. C'était pas acquis, c'était pas acté. Faut pas penser parce que ça a été annoncé.
Bien
c'était
sûr.
Juste une façon de tester, de voir si c'était le bon levier ou pas le bon levier. On voit que c'est pas forcément le bon levier, effectivement, dans le temps que l'on connaît, notamment au niveau des faits religieux, etc. Bon, peut-être qu'il faut considérer les choses autrement.
Après, est-ce qu'il y a aussi quand même quelque chose, c'est qu'on a l'impression que personne veut se faire du mal. C'est dans l'intérêt général, dans l'intérêt collectif, chacun doit le mettre de sa personne. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi ?
C'est jamais agréable de se donner un coup à soi-même. Au bout d'un moment, on préfère effectivement chercher une forme de stabilité, de confort que l'on a acquis au fil des années et de se dire, demain, on m'enlève une part de ce que j'ai pu acquérir, soit par mes droits, soit par mon travail ou autre. C'est jamais agréable. Maintenant, il faut être capable de prendre de la hauteur, de se projeter, de considérer autrui aussi et de voir qu'on vit en société. On ne peut pas vivre que pour soi-même. Donc, il y a un moment, cette dette, elle est collective, elle n'est pas individuelle, mais à la fois, elle est composée d'individualité. Donc, il faut absolument, en fait, trouver un consensus par rapport à cette prise de conscience. Et ce n'est pas toujours évident, secteur par secteur, parce qu'il y a des secteurs qui sont plus en difficulté que d'autres aussi. Donc, il va falloir avoir aussi cette considération sur des personnes ou des activités qui, elles, sont en difficulté, qui n'auront pas la capacité toujours d'assumer justement cette dette et d'avoir l'effort, de fournir l'effort. Maintenant, il y a un effort qui sera collectif, qui sera pas personnalisé. Et il y aura peut-être des efforts effectivement très personnalisés, comme ça a été annoncé notamment sur les hauts revenus. Voilà, il y a un moment.
Après, Catherine Vautrin l'a précisé, ça pourra les hauts revenus ne suffiront pas à régler la dette.
Bien sûr, et puis avec le risque que l'on sait aussi de la fuite vers d'autres États plus favorables fiscalement. Donc
c'est déjà c'est triste,
le cas, mais
c'est triste à dire, mais il y a beaucoup de mouvements justement. On l'observe de plus en plus d'entrepreneurs. Donc on ne va pas les juger puisque dans une certaine mesure. Encore une fois, symboliquement, les personnes qui se disent on a travaillé, on a capitalisé, on a fait des choses, pourquoi on serait encore une fois, bien évidemment, les tiers payeurs? Mais il y a un autre sujet qui est celui de la reprise de marché immobilier. On a vu qu'il y avait une reprise plutôt bonne, frêle mais bonne, du marché de l'ancien, d'un retour à une offre de la transaction. On a vu revenir des primo-accédants sur l'ancien. Les chiffres étaient intéressants, surtout qu'on connaissait un plateau des taux d'intérêt qui commençait à se stabiliser. Et on sait. Et on sait qu'à partir du 12 septembre, les agences de notation vont déclasser la France à cause des rigueurs budgétaires. Et on sait que la conséquence directe d'un déclassement de la notation de la France va entraîner irréversiblement une hausse des taux d'intérêt, puisque la prime du risque étant plus élevée, les banques, avec les taux directeurs européens, feront payer la France. Déjà une crise qui a duré quoi, 3 ans pratiquement. Imaginez 50-100% 100 points d'augmentation de base sur les taux d'intérêt, c'est un coup d'arrêt quoi.
C'est pour ça que nous on est pour
c'est
une stabilité
bon, hein.
Parce que effectivement ce n'est pas bon actuellement. On sait très bien qu'on est en difficulté effectivement.
Vous soutenez le gouvernement, on est d'accord?
Je soutiens le gouvernement effectivement.
Et vous voterez la confiance?
Je voterai la confiance.
Oui.
Effectivement, parce que je souhaite une stabilité, rien n'est parfait, mais par contre, je souhaite qu'on agisse, nous, pour notre groupe politique, pour aussi adapter en fait des propos qui avaient été proposés. On doit être force de proposition. On ne doit pas non plus donner un semblant et dire tout est
et
bon
puis
et tout est parfait.
Et puis être responsable, tout simplement.
Mais bien sûr, c'est être responsable. On voit bien, on sait très bien les conséquences de telles instabilités. On l'a vécu, on le vit encore. On ne veut plus de ça. Au bout d'un moment, ça ne sera jamais un monde parfait. Ailleurs, ils savent s'entendre. Dans les autres pays européens, ils sont aussi avec une diversité politique forte et ils savent s'entendre.
Et l'image que ça renvoie, c'est s'il y a motion de censure une nouvelle fois, l'image que ça renvoie, l'image... pour les Français, c'est révoltant.
Ils
ne
sont pas capables de s'entendre sur quelques points.
Pas capables, et puis c'est tellement enfantin, c'est pas responsable. Les gens qui travaillent dur, qui voient ça, des parlementaires qui replongent le pays dans la stabilité, c'est quand même assez...
Alors, on n'est pas sûr, effectivement, bien évidemment. Parce
qu'on espère, en tout cas.
On ne va pas faire les prophètes de mauvais augure.
J'espère.
On n'est pas sûr que le 8 septembre, effectivement, puisqu'il faut quand même rappeler juste que le premier parti d'opposition de France, ce n'est pas les fistes, c'est le RN, avec plus de 9 millions d'électeurs. Donc, et zéro poste, même pas un strapontin à l'Assemblée nationale. Je dis ça comme ça, pourquoi ? Parce que dans la représentation du public, au-delà des effets de manche de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, c'est quand même 9 millions de personnes qui ont voté. C'est-à-dire qu'on doit considérer leur vote dans une démocratie, bien évidemment. Le Front National, enfin le Rassemblement National, pardon, n'a pas encore affiché clairement le soutien d'une motion de censure, puisque sans le RN, il ne pourrait y avoir de motion de censure. Est-ce que aujourd'hui vous dites, s'il n'y a que la gauche, le PS et les LFistes, le gouvernement pourrait avoir une chance d'avoir une continuité si, par exemple, le Rassemblement National, n'engageait pas aux côtés des LFistes et de la gauche, ce qui serait quand même un paradoxe incroyable, cette motion de censure. Vous êtes confiante là-dessus ou pas ?
Moi, j'y crois pas trop. J'attends de voir, parce que là, on fait des mathématiques.
Qu'est-ce qui vous revient aux oreilles
On fait des mathématiques, mais si j'ai entendu le discours de M. Bardella, il a quand même réagi très vite en disant « Nous, on ne votera pas la confiance. Maintenant, vous me dites qu'ils sont capables de revenir, etc. » Je ne pense pas. On a quand même des échéances prochaines, notamment au niveau municipal, qui, du coup, engendrera des grands électeurs pour les sénatoriales, parce qu'actuellement, l'équilibre se faisait aussi avec le Sénat. On parle toujours de l'Assemblée nationale, mais l'équilibre se faisait parce que le Sénat avait une forme de stabilité. Et donc, du coup, il y a des échéances à venir. Il faut aussi qu'ils existent dans les échéances à venir et qu'ils se distinguent. Donc, je suis un petit peu dubitatif sur le fait
qu'il... Vous pensez qu'un dessein politique du RN a déstabilisé finalement le pays et a provoqué éventuellement... C'est ce qu'on se dit, peut-être que c'est un fantasme, a provoqué des élections anticipées, par exemple. Ou, par exemple, de pousser... Alors, il a dit qu'il le prépare, mais de pousser, par exemple, le président de la République à la démission.
Bien sûr, c'est toujours un fantasme que l'on entend. Et après, pour faire quoi ? Après, ils font quoi ? On les met, en fait, on met M. Bardella Premier ministre, mais il va se faire censurer. Je veux dire, ça, pour combien de temps ? Il n'aura même pas le temps de déployer un programme politique.
Ouais. Et donc, C'est recommencé.
Donc, au bout d'un moment,
c'est
enfin,
en fait.
Mais
oui,
et c'est même pas une question
de qualité de la personne ou du programme. C'est qu'il ne pourra pas le faire. La situation fait qu'il faut qu'on s'accorde et qu'on a besoin de trouver des compromis, des voies de passage, d'identifier des passages obligés et des passages secondaires.
Un gouvernement d'union nationale, c'est envisageable ?
Alors, ça va être difficile dans le contexte actuel, quand vous voyez que certains...
Bien.
Oui, mais quand vous entendez que certains poussent à la révolte...
Les pays slaves l'ont fait, les pays du Nord l'ont fait, certains pays du Sud également... dans l'adversité, une union nationale, ça aurait de la gueule, comme dirait le général de Gaulle.
Pour l'instant, on est encore dans le jeu des postures. Pour l'instant, il faut arrêter de mettre toujours un masque face à son visage et avancer.
On a une dernière question, justement, sur l'état du logement, parce que forcément, nous, on est les porte-parole du logement, on est la voix du logement et de l'immobilier. Vous avez été très actif sur pas mal de sujets récemment, notamment sur... les problématiques de DPE, vous êtes un peu énervé à l'Assemblée contre certains justement qui voulaient de dire on passe de tout à rien, enfin bref. On en est où aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes, alors si on fait abstraction bien sûr du climat politique, pas difficile, mais si on faisait abstraction, aujourd'hui avec les réseaux immobiliers, les acteurs de l'immobilier, la tendance est plutôt bonne selon vous ? En sachant qu'aujourd'hui, je sais que vous partez tout à l'heure à Innoceta dans le sud-ouest pour les rencontres d'Innoceta. Qu'est-ce que aujourd'hui vous relevez pour cette rentrée économique de l'immobilier ?
Alors, il y a une satisfaction malgré tout des mesures qui ont été prises par la ministre d'État, notamment sur l'investissement, comme elle a pu le dire précédemment sur cette émission.
Il y a fort probabilité que le statut du bien privé, s'il y a pérennité, hein, Bérénice, voit le jour au PLF 2026.
Après, la problématique des entreprises reste toujours le logement. Je veux dire, ici, quand vous entendez ça et là dans les allées, tout le monde ne vous dit pas qu'ils sont sereins par rapport au logement. Moi, je suis d'une région en Bretagne où on est quasiment au plein emploi. La difficulté liée au logement reste première. Les gens ne refusent encore des emplois parce que faute de logement. Donc, il faut continuer à batailler, notamment nous, avec la tension que l'on connaît entre les résidences secondaires et le logement à l'année. On sait qu'actuellement, par exemple, sur certains territoires, sur les permis de construire qui sont donnés, 40% de ces permis de construire ont vocation à aller vers de la résidence secondaire. Donc, quid des entreprises, quid de l'économie locale, de la dynamique territoriale, des services publics, etc. Donc, au bout d'un moment, il faut se poser la question comment on aide tout ce secteur économique à trouver justement des gens à l'année pour pouvoir recruter et pouvoir avoir des gens qui consomment aussi sur le territoire.
C'est très clair. Merci beaucoup, Annaïg Lemeur.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes députée du Finistère, présidente du Conseil national de l'habitat. Vous savez, vous êtes chez vous, c'est Radio Immo. Et je sais que vous répondez toujours très présent. Un petit clin d'œil à notre ami Régis Friand, qui est de l'autre côté, notre ami François Régis. Voilà. Merci en tout cas d'être ici avec nous à la REF, à la Roland-Garros. Une première, hein, magnifique.
C'est vrai.
Roland-Garros.
Et il y a le soleil. C'est
voilà.
Parfait.
Et on est avec vous toute la journée. À tout de suite.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Un événement organisé par le MEDEF sur Radio Immo et Radio Territoria.